Céon, la dernière sirène. Dans le pays le plus beau de la douce et belle Bretagne, il y a un grand château. Si celui qui l'habitait était duc, prince ou roi, personne ne s'en souvient plus, car c'était dans les temps les plus reculés. Mais on se souvient très bien encore qu'il était bon et généreux, et que sa fille était belle comme le jour au printemps. Se sentant vieillir, il aurait désiré la marier, mais d'aucun de ceux qui se présentaient ne se souciait. Et le bon père secouait tristement la tête, car au-delà d'eux, il aurait volontiers fait son fils. Pour ceux qui l'entouraient, la belle, habile, à filer la soie, à célébrer dans ses chants la vaillance des preux chevaliers, la beauté de son pays, ne trouvait point du tout celui qu'elle eût désiré comme époux, celui qu'elle attendait, certaine de le rencontrer. Et voici que s'en vint des pays du Nord un chevalier au poil roux, à l'œil dur. Celui-là ne savait point chanter ni dire de beaux vers, mais fort bien, il savait se servir de sa lourde épée et chasser en forêt le loup et le sanglier. S'il n'avait comme d'autres le don de charmer par ses écrits ou ses chants, du moins savait-il bien parler de ses exploits à lui propre, si bien que sur ce chapitre, il ne s'arrêtait pas facilement. Chacun bientôt s'aperçut que, lourdement, au dire de ses rivaux, il s'essayait à briller auprès de la princesse. Mais il dut s'apercevoir aussi qu'il ne s'y prenait pas trop mal, parce que, au grand dent et dépit de plusieurs, elle semblait le considérer avec une admiration que bientôt elle ne chercha plus à cacher. Et si cela s'entr'ouvert ulcéré, chacun du moins ne put s'étonner lorsqu'un peu plus tard on apprit que, contre les vœux de son bon père et sans écouter ses conseils, à ce nouveau venu, le chevalier aux yeux d'acier, elle s'était fiancée. Celui-ci, tout d'abord, fier de sa conquête et heureux de l'avoir emportée sur ses rivaux, semblait fort épris et empressé, mais ne se faisant vraiment qu'à la lutte et au choc des épées, bientôt le temps lui devint long. Et souvent il s'en allait seul errer sur le rivage. Et un soir, qu'il s'en allait ainsi rêver, bataille et lointain voyage, il entendit un chant doux et triste qui lui semblait plus beau que tout ce qu'il avait entendu jusque-là. Toute la nuit, il y rêva, et le lendemain, il ne put se tenir d'en parler à sa fiancée. Mais Sitôt qu'il en ouvrit la bouche, elle pâlit et bientôt l'interrompit. « Oh, mon cher Seigneur, si vraiment vous m'aimez, plus jamais n'allez vers le rivage fatal. Ce chant que vous avez entendu, c'est celui de la sirène, traîtresse, et qui, si vous l'approchiez, vous entraînerait au fond de l'abîme. » Bruyamment, le chevalier se mit à rire. J'ai eu affaire à de plus dangereux ennemis, dit-il. Je ne crains point une femme. Hélas, hélas, combien de beaux navires et de marins sur les roches maudites sont allés se briser, attirés par sa voix. Cinq des plus jeunes et des plus vaillants chevaliers ont disparu, entraînés eux aussi. Mais, secouant sa tête aux cheveux roux, le chevalier riait toujours. Mais fée ou démon, dit-il, celle qui m'entraînera n'est pas encore née. De ce jour, on n'entendit plus guère dans les grandes salles du château résonner le chant joyeux qui semblait cascade de perles. Tout au plus, à son fiancé, la belle souriait-elle parfois, mais ce sourire même n'était plus joyeux. Pour lui, presque chaque soir, il retournait au rivage, mais à peine percevait-il maintenant le merveilleux chant qui semblait s'éloigner à mesure qu'il l'approchait. De plus en plus, grand était son désir d'entendre, de voir celle qui, pour mieux l'attirer, semblait le fuir. Déjà, il était sa proie. Sur la rive déserte, nul ne passait. Pourtant, un soir, vint vers lui un pêcheur, homme déjà sur le déclin, mais dans les yeux bleus que le vieillard fixa sur lui, l'âge n'avait pas laissé de traces. Ils étaient beaux et calmes comme la mer en paix. Alors il se sentit pénétré par ce calme et par la douceur de sa voix. « Mon chevalier, où vas-tu ? » « Fuis les rochers où se cache la sirène perfide. Avant de perdre ton corps, elle perdra ton âme. Viens avec moi plutôt sur la falaise. Viens écouter celui qui vit là, solitaire. Et ses paroles verseront sur ton âme un baume bienfaisant. Pour toi, le chant de la sirène n'aura plus de charme. » Les pêcheurs, pour parler ainsi, ne l'as-tu pas entendu ? Quel est celui qui résistera en son appel ? Renoncerait à la voir. Mes deux fils ont péri sur les rochers attirés par elle. Moi-même, alors que la douleur m'avait rendu fou, j'ai failli écouter, mais j'ai entendu un autre appel. Et maintenant, je possède la paix. De ce jour seulement, j'ai commencé à vivre. Beau chevalier, viens avec moi. Bientôt, toi aussi, tu entendras la cloche qui n'a pas encore sonné, la cloche de Pâques qui détourne les sirènes. Pour tous, elle sonnera, riche comme pauvre. Elle appellera, et c'est pourquoi tous viendront, tous les fils de Bretagne avec leurs compagnes et leurs enfants. Mais le chevalier bientôt secoua la tête. Eh bien, elle ne sonnera pas pour moi, dit-il. Écoute, le chant se rapproche. Voici la sirène qui vient vers moi, et je vais à sa rencontre, je vais la rejoindre. Adieu, pêcheur. Le regard a versé dans mon âme un rayon de espérance. Ô sirène, réponds à mon appel. Viens vers ton humble serviteur, qui se meurt d'amour pour toi. Mais voici que, doucement, la mer s'entr'ouvre. Est-ce toi, reine des mers, qui viens vers moi, plus merveilleuse encore que ne l'imaginent ceux qui ne t'ont vu qu'en rêve, et sur celui qui semble et tremble devant elle? La sirène fixe ses yeux, changeant comme la vague sous le ciel. Ses cheveux sont en or vert, ses épaules et sa gorge ont l'éclat de la perle, et sa voix est plus douce que la brise du printemps. Que me veux-tu, beau chevalier, et pourquoi m'appeler? Retourne auprès de ta fiancée. N'as-tu plus d'amour pour elle? Hélas, il est vrai, avant de t'avoir rencontré. La belle, je suis fiancé. Mais si je l'aimais d'amour vrai, sirène, je ne m'en souviens plus. Hardi chevalier, ton cœur s'est donné. Fiancée à la belle, la quitterais-tu? Oh, sirène, ma pensée a fui loin d'elle. Que peut-il exister au monde? Que peut-il pour celui qui t'a rencontré, qui t'a contemplé? Mais d'autres m'ont parlé ainsi, et ceux-là, pour moi, ont tout quitté. Ainsi vaut-il faire si tu veux me suivre? Hélas, j'ai tout quitté déjà, ma reine. Loin de toi, je ne puis point vivre. Beau chevalier, si vraiment tu m'appartiens, il faut m'en donner une preuve. Si tu rapportes le collier de perles qui m'a été dérobé et qui maintenant orne le cou de ta fiancée, alors je te croirai mon serviteur. Oh, sirène, prends-moi la vie si tu veux, mais au moins laisse-moi l'honneur. Beau chevalier, jusqu'au jour où tu m'en apporteras ce que je te demande, nous ne nous reverrons plus. Sans doute, toute une sorcière avait dû jeter un sort sur le chevalier qui venait du nord. Le soir, sur le rivage, on le voyait, de loin, faire des gestes d'insensés. À la plainte des vagues se mêlait sa plainte. Mais il est maintenant délivré, plus que jamais embrassé, auprès de sa belle fiancée qui renaît à la joie. Il aime à la voir parée des plus beaux atours. Pourquoi porter toujours les mêmes perles, moins blanches que vos blanches épaules, ma belle fiancée? J'aimerais vous voir autour de votre col de cygne, les plus purs saphirs, les plus... Ça harmoniserait bien avec l'or de votre chevelure. Empressée à lui plaire, la belle entoura son beau col du collier de saphir. Mais le lendemain matin, les perles merveilleuses avaient disparu. Dans tout le château bouleversé de fond en comble, l'émoi fut grand. Ce soir, le soir vint, sans ramener ni le calme ni la gaieté. Et au souper, comme à l'habitude, l'oiseau familier du maître, Madame la Pie, vint se percher sur son épaule. Oh, comme tous ceux de sa race, cet oiseau doit avoir l'instinct de la rapine, s'écria le chevalier. Lui seul a pu dérober le collier de perles sans égal. Mais, le fixant de ses yeux de jais, de toutes ses forces et fort distinctement, la Pie se mit à crier « Voleur! Voleur !» Devenu blême, le chevalier tira son épée et faussa sur l'oiseau qui, par la fenêtre, s'envola, mais se mit à répondre par son cri « Voleur! Voleur !» D'abord stupéfait, la plupart des assistants ne purent réprimer un sourire, mais, se tournant vers ceux qui se trouvaient près de lui, l'auteur de ce geste singulier leur jeta un regard si menaçant que chacun mit la main sur la garde de son épée. Ce que, voyant, le maître rappela d'un signe et d'un ton assez sévère, il lui fit observer que tirer l'épée contre un oiseau était chose trop rare et singulière pour qu'on puisse empêcher d'en sourire. Et pour ce faire, il lui conseillait d'attendre de meilleures occasions. Et encore plus pâle, le chevalier baissa la tête. La nuit même, il allait vers le rivage, portant dans son sac un fardeau léger, mais qui lui semblait plus lourd que du plomb fondu, vers le champ d'amour, si doux et pourtant si triste, vers le champ de mort. Il se dirige, et la sirène a pour lui son plus doux sourire. « Oui, vraiment, tu t'es montré mon serviteur. Une seule épreuve encore, et je t'emmène avec moi au fond des mers, pour que voir mes fidèles qui t'entendent. Emmène-moi, sirène, emmène-moi au plus profond des mers. Sur terre, il n'est plus de place pour cacher ma honte. Ah, il te faut pourtant subir une dernière épreuve. Pour que les araignées mentissent ce manteau royal, j'ai besoin d'une chevelure d'or de ta fiancée. Oh, adieu, sirène. Si je consentais à ce que tu me demandes, si se dresserait devant moi pour me maudire. Bon chevalier, pourtant, tu reviendras vers moi. Vers moi qui t'attends. L'amour a bien changé le chevalier aux yeux d'acier, qui maintenant semble, auprès de sa belle, oublier guerre et tournoi. Parfois, il fixe les yeux sur elle, comme si, devant la quitter à jamais, il voulait emporter son image. Bientôt sera fixé le jour de leurs noces. Mais leur bonheur trop grand lui fait-il peur? Ni l'un ni l'autre ne semble joyeux. Dans le beau jardin fleuri, tous les deux marchent en silence. Pourquoi cette tristesse empreinte sur votre front, mon cher Seigneur? Ne m'en direz-vous pas la nature? Ne savez-vous pas qu'avec vous, je porte déjà le lourd fardeau? Hélas, ma douce fiancée, il me faut pourtant vous taire ma peine. Moi seul dois la supporter. Mais dites-moi donc, dites-moi si je pourrais l'alléger. Oh, si vous le vouliez, belle, moi je ne pourrais y consentir. Irrité de me voir passer épouser une étrangère, les mânes de mes pères me poursuivent. En négligeant un sacrifice. Mais s'il est en mon pouvoir de le faire, c'est d'un cœur léger que j'y consentirai. Hélas, sur leur tombe, pour apaiser leur colère, il ne faut rien moins que votre plus belle parure, belle, la chevelure d'or qui couvre vos épaules d'un manteau royal. Tel est le sacrifice auquel ni vous ni moi ne pouvons consentir. Ses beaux yeux pleins de joie, la belle sourit de son plus doux sourire. Oh, si c'est pour cela, pour vous rendre la paix, dit-elle. Ne savez-vous pas, mon cher seigneur, que ma chevelure vous appartient tout comme mon être entier? Trop ému pour parler, son fiancé prit sa main et la baisa. Mais plus tard, sur son balcon, la douce entendit, venant de la mer, un chant qui déjà l'avait frappé son oreille, et ce chant, qui semblait un chant de triomphe, lui mit la mort au cœur. Autour d'elle se mit à voleter le rouge-gorge que tout l'hiver elle nourrissait de sa main. Et il vint se poser sur sa tête. Ne lui donne pas tes cheveux d'or, belle, tes cheveux d'or sur lesquels j'aime tant à me poser. Il les porterait à la sirène pour en faire un manteau royal. d'un geste la belle chasse à l'oiseau, mais de ses beaux yeux, une larme est tombée. Et le soir même, on vit un homme courant comme un fou vers la vague. Sous son manteau, il cachait un fardeau qui n'était point lourd, mais dont la tiédeur le brûlait comme un feu dévorant. Les bras tendus vers lui, il attendait la sirène. « Eh bien, maintenant, je vais t'emmener à jamais. Beau chevalier, tu m'appartiens. » Le lendemain, lorsque resta vide la place du fiancé, tous comprirent que pas plus que les 5 disparus, celui-là ne reviendrait parmi les hommes. À son tour, celle qui resterait inconsolable s'en alla à errer au bord de la mer, appelant la sirène, la suppliant de lui rendre son ami. Au loin, un strident éclat de rire répondit. Plusieurs nuits, elle erra ainsi sur la rive solitaire. Puis un soir, au premier rayon de la lune, voyant arriver vers elle la vague qui venait du fond de l'abîme, elle avance plus que ses compagnes et sournoisement vous enlève soudain, vers elle étendit ses bras. Vague, verte, vague argentée, mène-moi vers mon fiancé. Docile, la vague à courant la porta, les yeux fermés. Lorsqu'elle les ouvrit, son vœu était exaucé. Dans une grotte spacieuse, à demi éclairée par une ouverture où de bien haut apparaissait un coin du ciel, la sirène, à demi étendue sur un dôme de corail rose, recevait l'hommage de ses admirateurs. Sur ses épaules était jeté le manteau d'or, rendant invisible sa queue de poisson. Moqueur, son regard se fixa sur la belle, mais pas un chevalier ne détourna la tête. Vers son fiancé, elle fit quelques pas, les mains jointes. Un moment, il fixa sur elle son regard, puis le détourna comme d'une inconnue. Alors, de nouveau, elle entendit le rire strident qu'il avait glacé le cœur. La voix douce et traîtresse. « Insensé, mais que viens-tu faire ici? Prétendrais-tu m'enlever celui qui s'est donné à moi corps et âme? Entre toi et moi, il a choisi. » Et du geste, elle lui indiquait un coin reculé de la grotte. Tremblante, elle s'y laissa tomber sur un lit de goémon. Ainsi passèrent les jours. Souvent, la sirène disparaissait. Au loin, on entendait le chant qui menait à leur perte, barques et navires. À son retour encore, elle s'essayait à ces chants d'amour et de mort, plus triste que la mort encore. Mais tous l'écoutaient avidement, ou bien, gracieusement, élevant ses bras au-dessus de sa tête, elle ondulait, dressée, autant qu'elle le pouvait, sur sa queue invisible. et pas un encore ne détournait d'elle ses yeux, tandis que la belle se sentait mourir de tristesse et de désespoir. Mais tout près d'elle, voici qu'elle entendit une voix. C'était celle du dauphin qui cherchait à la consoler. « Petite sœur, disait-il, ne te laisse pas ainsi périr de chagrin. Pourquoi ne pas toi aussi faire entendre ta douce voix ? Bien souvent, je me suis rapproché du rivage pour t'écouter, et souvent, de ton balcon, tu as souri à mes ébats joyeux. Bien souvent, je me suis approché du rivage pour t'écouter. Chante donc à ton tour, mais si plutôt tu le désires, avec confiance, monte sur moi, et je te reconduirai chez ton père. Mais, tristement, la belle secoua sa tête, semblable maintenant à celle d'un jeune et charmant page. « Je ne partirai pas seul, dit-elle. » Comprenant que le dauphin avait raison, un rayon d'espoir la pénétra, l'animant d'une force inconnue. Pour reconquérir son ami, elle lutterait jusqu'à la mort. Au moment donc où la sirène s'apprêtait à chanter, elle s'arrêta devant elle, la défiant du regard. Celle-ci l'a compris, et ne doutant pas de sa victoire, fit entendre un rire moqueur. Aurais-tu donc, petite sotte, la prétention de te mesurer avec la sirène? Alors chante, chante, puisque tu le désires tellement. Et la belle chanta les vieux chants, et aussi charmait les hôtes de son père, d'abord insensible à son chant. Les chevaliers, peu à peu, fixèrent les yeux sur elle. Enfin, dans un murmure, elle entendit leur voix. Celui qui semblait le plus âgé parla comme en rêve. « Je veux un cheval noir, dit-il. Par lui, j'étais emporté comme sur les ailes du vent. À ma voix, il accourait, sans crainte. Il franchissait les barrières et l'obstacle. Mon père avait un beau navire, dit le second. Ses voiles blanches gonflaient au vent. Comme un albatros, il volait sur la mer. Je vais à chasser dans la forêt profonde, dit celui qui se tenait près de lui. Mais au retour, je vais entendre le barde chanter les chants de guerre et d'amour. Et celui dont les longs cheveux flottaient murmura, « Un soir, dans les jardins de mon père, j'ai marché aux côtés d'une jeune fille. Elle était belle. Dans ses cheveux noirs, j'avais mis une rose. Mais le cinquième, qui semblait encore un enfant, soupira. Oh, dans la demeure de mes pères, tout en haut de la plus haute tour, ma mère est assise et elle m'attend. Alors, dans le silence revenu, légère comme la plume envolée de l'aile d'un oiseau, la belle dansa. Elle dansa si bien que pour la voir de plus près, la vague vint mourir à ses pieds, et que les violettes poussaient dans le creux des rochers hauts, tout près du ciel, se laissèrent tomber pâmées autour d'elle. Puis ce fut une danse du pays des Bretagnes. Mais il lui manquait un vis-à-vis. Et comme l'avait fait bien souvent au château de son père, en face d'elle, comme malgré lui, le plus jeune vient se placer. Oh, il n'y resta du reste point longtemps. Éveillé de sa léthargie, le chevalier aux yeux d'acier durement le prend par le bras et l'écarte, reprenant auprès de sa fiancée la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Plus forte que la mort, la vie avait triomphé. Immobile, semblable à une belle statue de marbre, la sirène souriait. Et tandis que, joyeusement, le dauphin s'ébattait, ses yeux s'arrêtèrent sur lui. « Fille de la terre, » dit-elle, « tu as bien chanté et tu mérites une récompense. Que le dauphin vous emmène tous les deux, je vous rends votre liberté. » Heureux, les deux fiancés s'embrassent, alors que, toujours souriante, la sirène regarde dans le ciel un point noir qui s'approche. C'est le goéland, compagnon de la tempête, qui, le séparant de son fardeau, forcerait le dauphin à chercher un abri au fond des abîmes et entraînerait les fiancés à l'abîme. Pourtant, avant que la tempête hurlante l'eût atteint, qui donc en chemin l'avait arrêté, le dauphin était parvenu à son but. Dans la grotte où se tiennent le congre, son conseiller, la pieuvre et ses monstres que le pêcheur ignore, la sirène berce les chevaliers de ses chants les plus doux, semblables à ces fleurs merveilleuses dont le parfum verse la mort. Mais il semble que le charme soit rompu. À l'appel d'une autre voix, voix inconnue et humaine, tous sont tressaillis et prêtent l'oreille. Et lorsque le bras nu de la chanteuse maudite vient le frôler, le plus jeune hume l'air comme incommodé par l'odeur du poisson. Les yeux de celle à qui est adressée cette mortelle injure lancent des éclairs. « Pieuvre, » dit-elle tout bas, grinçant des dents. « Parlez tous, je te les donne. Étouffe-les, brise-les, dévore-les, fais-les souffrir, venge-moi. » Mais tout près d'elle souffle doucement le congre. Prends garde, dis à la vague de les ramener au rivage comme d'immondes débris, mais ne leur ôte pas la vie. Ne sais-tu pas qu'ils sont protégés par celui qui se tient là-haut, sur la falaise? Celui-là, sirène, est plus fort que toi. Ainsi fut fait. Et lorsque la lame les rejeta à demi-morts sur le rivage, les chevaliers, se tenant par la main, hésitent un moment, sauf le plus jeune, qui, ayant aperçu le toit de sa demeure, s'enfuit en courant. Les autres prêtent les oreilles aux chants lointains que leur apporte la brise. Plus doux, plus mélodieux que jamais, s'élève le chant de la sirène qui semble les supplier maintenant de ne pas l'abandonner. Alors se fait entendre un autre appel, plus pressant, plus impérieux aussi, celui de la cloche qui n'a pas encore sonné. C'est à lui qu'ils obéissent, tandis que se meurt le chant désespéré, et, attiré comme par un aimant, ils gravissent la falaise. Beaucoup d'autres feront comme eux, car c'est pour tous que sonne la cloche de Pâques. Riche comme pauvre, elle appelle, c'est pourquoi tous viennent vers elle, tous les fils de Bretagne, avec leurs compagnes et leurs enfants.